Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche, Cases et Bulles, où Christol, Seek et moi-même allons vous présenter l'actualité de la bande dessinée, comme on le fait depuis un bon bout de temps. C'est une actualité qui va permettre de partir du pape Innocent III pour arriver à Eggman, un personnage totalement imaginaire, qui est une espèce d'œuf à pâtes, et dont je vous ai déjà parlé un certain nombre de fois. C'est le dernier album paru aux éditions de l'association. Mais avant Eggman, on parlera du peuplement des terres australes, autrement dit de la Nouvelle-Hollande, autrement dit de l'Australie. Et on aura parlé aussi de Mussolini. Bonjour Christol.
Bonjour Richard.
Alors, je te propose de commencer tranquillement par Innocent III, ensuite Terra Australis, après Mussolini et enfin Eggman, sauf si tu préfères ne pas commencer par Innocent III.
Non, comme tu le souhaites, peu m'importe.
Alors, Innocent III, allons-y. Donc, c'est une collection Glénat-Le Cerf en coédition qui nous parle de tous les papes de l'Antiquité jusqu'aux papes les plus récents dans le désordre. Donc il y a déjà un album qui est paru sur François, il y a aussi des albums qui sont parus sur les papes qui ont eu à traiter de l'invasion des Huns, et là il s'agit d'Innocent III qui a à traiter d'autres choses, qui traite en fait de l'hérésie cathare.
Oui, exactement. A priori, on ne peut que se féliciter qu'un grand éditeur, les éditions Glénat, consacre toute une collection au pape. La collection qui s'appelle Un pape dans l'histoire, ce qui révèle que l'éditeur va s'intéresser à un fait marquant qui a relié l'histoire spirituelle de ce pape avec la grande histoire. Et là, en l'occurrence, pour Innocent III, eh bien, on va mieux comprendre pourquoi le pape a décidé de lancer une croisade dans le sud de la France pour mettre fin à l'hérésie cathare. Alors, je ne sais pas si tu as déjà parcouru certains albums de cette collection.
Si.
C'était très bien parti, je trouve, pour ma part, avec le premier album qui était consacré à Saint-Pierre. Et dans celui-ci, le scénariste essayait de nous faire découvrir ce que pensait Saint-Pierre les quelques heures avant sa mort. Et c'était assez bien vu, assez intéressant. Ensuite, il y a eu des albums qu'on peut éviter de lire. L'un sur Léon le Grand qui défia Attila, surtout celui sur les Borgia, dont le dessin est assez décevant et le scénario raconte les Borgia, mais si on est catholique, parfois on peut être exaspéré par la noirceur de ces personnages-là. Un album très intéressant sur Pie XII, le tome 1, et le tome 2 va bientôt sortir, puisque cet album sur Pie XII, en fin de compte, réhabilite Pie XII et il replace sa pensée dans ce contexte. Sur ce, Jean-Paul II était intéressant, et celui, par contre, sur le pape François, par un scénariste qui voulait encenser le pape François, m'a un peu exaspéré. On peut deviner pourquoi, je n'entrerai pas dans le détail, sauf s'il te reste du temps dans le cadre de l'émission. Donc,
Disons en tout cas que ce qu'il y a d'intéressant dans une partie des albums, c'est qu'ils ne sont pas hagiographiques, ils sont historiques, et que l'album consacré au pape François, en revanche, lui était carrément hagiographique. Et donc évidemment, le fait d'avoir béatifié le pape avant même, juste après sa mort, ou même avant même qu'il ne meure, était saugrenu, pour plusieurs raisons, effectivement, sur lesquelles on ne s'étalera pas immédiatement.
Bien, donc retournons à Innocent III. On est plongé au XIIIe siècle. L'album commence par nous rappeler, et je l'avais oublié pour ma part, que Philippe d'Auguste avait épousé donc Ingeburge de Danemark, et que juste après la nuit de noces, pour des raisons restées mystérieuses, il décide de demander l'annulation de ce mariage. Voilà. Et ce début du récit. Et par la suite, on va faire le lien entre cette vie, ce mariage de Philippe d'Auguste et le pape Innocent III. Alors voilà ce qui se passe. Quelques années plus tard, en pleine hérésie cathare, le pape envoie un émissaire, Pierre de Castelnau, pour parler avec le comte de Toulouse. Et Pierre Castelnau est assassiné par des cathares. Le pape se demande alors comment réagir. Et c'est alors que le scénariste et dessinateur crée quelques belles planches dans lesquelles le pape va dans une église, je pense que c'est la chapelle Sixtine, j'ai un peu oublié, et s'interroge fortement sur ce qu'il doit faire par rapport à l'hérésie cathare. Il se demande qu'aurait fait le Christ à ma place. Et tenez-vous bien, il prend la décision, se mettant à la place du Christ, de déclencher une croisade en demandant aux puissants royaumes d'Europe de l'aider dans cette manœuvre. Et Philippe Auguste va l'aider, va envoyer son armée également pour en quelque sorte se faire pardonner le fait que son mariage avec cette princesse du Danemark ait été annulé. Ensuite, peut-être que l'album a le défaut de s'écarter un petit peu de la pensée d'Innocent III pour se focaliser davantage sur cette croisade en terre cathare, notamment sur le massacre de Béziers. Mais ça reste un album intéressant qui révèle, sans assez le creuser à mon avis, comment un pape arrive à prendre une décision si importante avec d'un côté la pensée du Christ et de l'autre la nécessité de sauvegarder l'héritage chrétien, c'est-à-dire la papauté contre toute forme d'hérésie. Et l'album met bien en valeur ce débat. Le scénariste, c'est Stéphane Bettbeder. Bon, Stéphane Bettbeder, au début, c'est quelqu'un qui voulait être dessinateur bande dessinée, puis assez rapidement, à l'école Angoulême, on lui a fait comprendre qu'il n'était pas assez doué. Et donc, il a fait de la photo, de la vidéo, et puis un jour, il s'est dit, bah, je vais me remettre à la bande dessinée avec un de ses copains, Christophe Beck, dont on a déjà parlé dans ton émission. Et notamment, il avait réalisé avec Christophe Beck une série en trois albums qui était plutôt bienvenue, Les Mémoires d'un paysan bas-breton. Eh bien, ce binôme, Stéphane Bettbeder, avec le, non pas avec Stéphane Beck, je raconte n'importe quoi, avec le dessinateur Christophe Babonneau, dresse une nouvelle série consacrée à Innocent III. Alors, on retrouve un scénario plutôt bien mené, qui, à mon avis, ne se focalise pas assez sur la pensée spirituelle de ce pape, mais c'est quand même bien mené. Et le dessin de Christophe Babonneau a toute sa place dans la collection Un pape dans l'histoire. À chaque fois, ce sont des dessinateurs quand même par des dessins réalistes et soignés qui permettent de vraiment coller avec l'idée d'une bande dessinée classique, historique. Et là, le cahier des charges est bien rempli par Christophe Babonneau, un Nantais, donc un de plus, un Nantais qui vient de l'école Pivot. On parle souvent de cette école à Nantes qui a formé beaucoup de dessinateurs talentueux. Je pense que cet album à suivre. En fin de compte, la suite de la série, ça va être sur P12, le tome 2. Innocent 3, c'est une lecture agréable. Alors, ce n'est pas indispensable, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais au cours de l'été, si vous voulez la bibliothèque relire toute la série Un pape dans l'histoire, bah, c'est une série qui est plutôt bien.
Voilà, qui se tient debout, effectivement. Moi, je vais vous parler du deuxième tome de Terra Australis, alors, bah, qui est la suite du premier, dit-il finement. Donc, c'est une fois plus la collection Poche Glénat, où on réédite au format A5 des grands formats. Et je vous avais parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne me souviens plus, de l'album consacré à Lino Ventura, et là c'est la même chose, c'est-à-dire que la réduction fait du bien à l'album. Voilà, les pages étaient trop grandes, si j'ose dire, dans la version initiale, et là, en format A5, le dessin qui paraissait être un peu fruste, un peu rapide, alors, bah, pas minimaliste, puisque donc il y a un effort au contraire dans les détails, avec d'ailleurs de très belles réussites quand il s'agit de planches végétales ou de scènes un peu animées, avec quelque chose de plus plat quand il s'agit de mettre en scène des dialogues, où du coup comment s'appelle-t-il? Le dessinateur Philippe Niclou multiplie les angles, ce qui n'est pas très heureux, et s'essaye de temps en temps à quelques manganeries avec beaucoup trop de traits pour exprimer la vitesse avec laquelle se déplace le personnage. C'est l'histoire du peuplement, en fait, de l'Australie, donc de la Nouvelle-Hollande. Il y a, je le répète, une très belle exposition en ce moment au musée de l'armée sur les explorateurs, qui a été notamment les explorateurs militaires français, donc 3 siècles d'exploration, et toutes les explorations, notamment de ce qui va devenir l'Australie, de ce qui va devenir une colonie anglaise, est présente dans cette exposition. Terra Australis, c'est un scénario de Frédéric Le Bollé, de Louis-Frédéric Bollé, dont on a déjà dit ici grand bien, et il s'attache en fait à raconter des destins individuels, et donc autrement dit, tous ceux qui font partie de ces 1500 personnes raflés en Angleterre, déportés soit miséricordieusement, soit honteusement. Miséricordieusement car la déportation leur évite la mort, honteusement car évidemment c'est une cohorte de condamnés qui est jetée par les anglo-saxons dans cette nouvelle colonie, une colonie de peuplement anglo-saxonne avec des reprises de justice qui vont produire un pays australien évidemment qui manque un peu du raffinement de l'Angleterre et même de celui des États-Unis, puisque là, on a vraiment pris la lie de l'Angleterre. Je ne sais pas si vous imaginez déjà l'Angleterre et en plus la lie de l'Angleterre. Donc, on est véritablement au fin fond et au tréfonds de la Mémane. C'est assez intéressant parce que, évidemment, Bollé réussit à personnaliser chaque destin avec beaucoup d'empathie pour les personnages. Il a tendance à souligner à chaque fois dans les personnages qu'il choisit. Il ne traite pas des 1500 personnes et il a tendance à choisir les cas les plus pathétiques et à faire valoir, bien sûr, d'une certaine manière, l'injustice du sort qui les rend premiers intervenants blancs au contact des aborigènes. Il y a un effort de la part de Nick Lou pour rendre les paysages australiens, c'est un album en noir et blanc, pour rendre les aborigènes, pour rendre cette espèce d'exotisme incroyable d'une flore et d'une faune qu'on ne connaissait pas, et de peuplades dont on ignorait tout, évidemment, et qui étaient surprenantes par leurs mœurs, même par rapport à ceux qui connaissaient déjà l'exotisme africain ou l'exotisme asiatique. Bah, l'Australie, c'est un vent au XVIIIe siècle, c'est quelque chose d'absolument neuf, d'absolument surprenant. Terra Australis donc fait rentrer dans les débuts de ce peuplement. Il y a une fresque quasiment anglo-saxonne dans son ampleur. On a l'impression de lire Colorado Saga ou ce genre de roman anglo-saxon qui à chaque fois n'hésite pas à enfermer dans quelques pages une histoire absolument gigantesque. C'est une réussite du point de vue du scénario. Alors c'est un peu long là le deuxième tome. Fait de 260 pages et quelques. Donc, on est sur une bande dessinée qui va faire plus de 500 pages en entier. Malgré tout, c'est intéressant. Et en même temps, voilà, quelques réserves sur le dessin. Et si vous n'êtes pas intéressé par la manière, le film choral, la manière chorale de raconter une grande histoire à travers une vingtaine de destins individuels, évidemment, vous allez un peu passer à côté, d'autant que une partie de ces personnes n'ont pas grand intérêt. Ce ne sont pas des héros, on n'est pas en train de nous raconter la biographie de personnes exceptionnelles. Au contraire, évidemment, toute la gageure dans laquelle se trouve Louis-Frédéric Bollé, c'est de raconter des histoires ordinaires, de gens ordinaires et même un peu moins qu'ordinaires, où la seule partie extraordinaire, c'est en fait la grande misère intellectuelle, morale, physique dans laquelle ils se trouvent et qui les a conduits, soit parce que leur nature était vicieuse, soit parce que les circonstances l'exigeaient, à être de pauvres citoyens. Malgré tout, voilà, il y a quelque chose évidemment d'intéressant à plonger au cœur de la naissance de cette nation en rappelant voilà, ce qu'étaient ces rebuts d'anglais qui ont réussi peu à peu, construire une véritable colonie et à faire en sorte que l'Australie aujourd'hui tient évidemment sa place au rang des nations civilisées. Une fois encore, voilà, je trouve que Nick Lou est absolument remarquable dans toutes les évocations naturalistes, qu'il s'agisse de la faune, de la flore, des paysages, des montagnes, et que, il est moins à l'aise, dès qu'il s'agit, d'essayer d'exprimer les états psychologiques des personnages. Mais enfin, voilà, une bonne bande dessinée. À propos d'états psychologiques, eh bien, Radio Courtoisie entame les mois d'été. Donc, les mois d'été, c'est des mois où il y a un peu moins d'émissions, puisque les lignes de droite s'arrêtent. Il y a généralement un peu moins de sous, et c'est dommage. Voilà, 200 000 euros pour traverser l'été, c'est absolument parfait. Si jamais tous ceux qui nous écoutent veulent bien donner 1 euro, voilà, ne serait-ce qu'un euro, eh bien, ça nous permettrait de passer l'été sans encombre et même d'envisager l'automne avec un certain plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas, soutenir.rc.fr ou envoyez vos chèques au 61. Boulevard Murat 75016 Paris, voilà, soutenir.rc.fr, ça vous permet de donner même le plus faiblement possible, nous en serons ravis. Et à propos de donner même le plus faiblement possible, ça évoque évidemment les quelques années que Mussolini a données à l'Italie pour un rendement assez aléatoire. Et donc, c'est toi qui va nous parler de cette bande dessinée aussi parue chez Glénat, ça fait 3 albums Glénat coup sur coup. Et donc, Crystal Sec, donc tu as reçu la biographie du Duce.
Ah, effectivement, merci Richard. Ce n'est pas la biographie de toute son existence, en fin de compte, et c'est là que c'est intéressant. Les deux albums, puisqu'il y en aura deux, vont se focaliser sur les derniers instants de Mussolini, et plus précisément, les deux dernières journées. Et c'est ça qui, au début, m'inquiétait. On peut toujours être inquiet aujourd'hui lorsqu'on découvre un film, un roman ou un scénario de bande dessinée sur des personnages dits obscurs, sulfureux de l'histoire, et parmi ceux-ci figure indéniablement Mussolini. Eh bien, honnêtement, c'est une bonne surprise, puisque les scénaristes tentent de nous faire revivre les derniers jours de Mussolini. Pour l'album qui vient de sortir, celui-ci commence de sa fuite de Milan jusqu'à son arrestation. Je dois alors rappeler que Mussolini avait été déposé, renversé, pardon, par son propre parti, puis réinstallé par Hitler dans l'Italie du centre et du nord en 1943, à l'automne 1943. Et là, tant bien que mal, Mussolini, à la tête de la République sociale italienne, dite la République de Salo, SALO, a tenté de maintenir son régime fasciste, tant bien que mal. Mais aux prises d'une part à l'avancée des forces américaines qui avaient débarqué au sud de l'Italie et d'autre part aux révoltes des communistes du Nord, des partisans, eh bien Mussolini a fini par céder du terrain et le 25 avril 45, après une entrevue avec un cardinal et avec les responsables de la nouvelle République italienne démocratique, il décide de fuir Milan. Que va-t-il faire? En vérité, on ne sait pas trop. Voulait-il rejoindre l'Allemagne en se cachant en Bavière? Voulait-il rejoindre la Suisse pour essayer d'y rester un simple paysan dans un pays neutre? On ne sait pas trop. Le fait est qu'avec un petit contingent de soldats italiens, des chemises noires comme on les appelle, et de soldats de la Wehrmacht, il tente de fuir. Il se fait arrêter. L'intérêt de cet album, c'est que le scénario est assez trépidant. Il est très bien mené. Et on commence à placer dès cet album les ressorts dramatiques du deuxième album qui va bientôt suivre. Puisqu'on a en toile de fond un petit groupe d'anglais dont on ne sait pas trop encore ce qu'ils font proche de la demeure où est caché Mussolini. Et c'est là que sans doute le deuxième album qui sortira dans un an sera passionnant, puisqu'il subsiste encore aujourd'hui de très importants doutes sur les circonstances de la mort de Mussolini. Alors, c'est pas comme Hitler où certains se demandaient est-il mort? Non, là, il n'y a aucun doute puisque les résistants l'ont assassiné et pendu par les pieds à un balcon. Tout le monde a pu le voir. Il est mort. Mais pourquoi a-t-il été tué et par qui? Eh bien, on ne sait pas trop si c'est par les communistes ou par si c'est par ceux qui ont pris le pouvoir plus tard en Italie. Notamment, on ne sait pas trop si ce sont les Anglais qui l'ont assassiné. Puisqu'on sait que Mussolini avait conservé comme chance de survie les lettres que lui avait adressées Churchill. Et c'était des lettres enflammées dans lesquelles Churchill disait beaucoup bien de Benito Mussolini sur sa façon de gouverner l'Italie. Mussolini les a toujours gardées en se disant « ça pourrait bien me servir un jour ». Et il comptait les utiliser sans doute le 25 avril 1945 avec les Alliés, en échangeant ces lettres-là, compromettantes pour le royaume britannique, contre sa propre liberté. Mais il a été assassiné, et peut-être découvrira-t-on dans le deuxième tome que les scénaristes, par une grande audace, imaginent qu'il a été tué par les Anglais, par la perfide Albion, pour sauver Churchill. Un scénario qui te plairait, Richard,
Eh
peut-être?
ben absolument. La mort de Mussolini est quelque chose de vraiment fascinant, étant donné que c'est quand même un dictateur qui a réussi à se faire renverser par son propre parti, et qui a accepté le verdict des urnes. Ça le différencie nettement d'Emmanuel Macron, par exemple. Et on est quand même tout à fait saisi par la manière dont les Italiens ont traité ce dictateur et par la manière dont le peuple, qui était sacré et consacré par le parti fasciste italien, a décidé effectivement de respecter, si je veux dire, l'idéologie et la mythologie fasciste jusque dans ses derniers développements.
Et si je peux me permettre, le scénariste présente Mussolini dans ses deux derniers jours comme étant un chef d'État philosophe, élidante, très calme et déterminé. Et ça peut trancher avec les gouvernements européens que l'on voit ou parfois ça manque de colonne vertébrale. Voilà ce que je voulais placer pour conclure. Donc, comme tu l'as dit, c'est chez Glénat. Et c'est une bande dessinée, franchement, qu'on peut lire celle-ci avec un plaisir certain au cours de la période estivale. Le scénariste, c'est Patrice Pernat. Le dessinateur, c'est un Breton, Malo Kerfriden, qui pour l'instant n'avait pas réalisé d'album très connu, mais c'est son grand-père qui est connu. C'est le petit-fils de l'écrivain breton Pierre Jacques Elias. Donc parfois, dans les familles, on retrouve toujours toute une dynastie d'artistes. Eh bien, pourquoi pas lui donner l'idée un jour de mettre en dessin les ouvrages de son grand-père.
Et oui, Le Cheval d'Orgueil, notamment, admirable livre paru dans la collection Terres humaines. Merci beaucoup. Et il faut juste ajouter que ce n'est pas une pure imagination de la part du scénariste et qu'évidemment, comme la plupart des bandes dessinées historiques qui sortent aujourd'hui, on ne s'empare pas du personnage de Mussolini pour en faire une espèce de proposition artistique. C'est appuyé sur, sinon des recherches historiques, en tout cas sur une bibliographie bien établie.
Exactement, oui.
Le dernier album dont je vous parlerai et qui empêche en fait qu'on ait pu nommer cette émission autrement qu'actualité de la bande dessinée, comme par exemple livres historiques, c'est I Wanna Be Your Eggman, je veux être votre homme œuf ou ton homme œuf de José Parrando à l'association. C'est le troisième volume d'une série tout à fait étrange de Parrando qui lui-même est un auteur un peu étrange. Il y a d'abord eu I Am the Eggman, puis From Eggman to Eggman, donc toujours à l'association en 2021 et 2022. Voilà le troisième volume qui paraît en 2026. C'est toujours le même dispositif, c'est-à-dire un dessin monochrome et d'ailleurs un dessin au trait avec très très peu d'aplats. Là, il y a un cahier de 16 pages avec d'ailleurs une deuxième couleur, le rose, qui intervient, mais c'est un dessin au trait, avec quasiment aucun aplat, uniquement des hachures et encore rares et espacées, et qui met en scène un personnage ovoïde, pourvu de deux jambes et de deux bras, mais le plus souvent réduit à sa plus simple expression. On ne voit même pas les bras, il y a juste un œil, parfois une bouche. Quand il ouvre la bouche, on a l'impression que c'est toute la tête qui se décolle des lèvres jusqu'à la colonne vertébrale, mais une fois plus, comme c'est un œuf, on a plutôt l'impression que c'est un œuf coupé en deux et dont la moitié supérieure se lève. Et Eggman vit des aventures absurdes et logiques. Voilà, on est en plein dans les contes à la Lewis Carroll, avec toujours cette idée de jouer avec les codes de la bande dessinée. Quand on le dit comme ça, on se dit, mon Dieu, c'est horriblement prétentieux et ça va être horriblement ennuyeux. Pas du tout. Il y a un humour amusant tout à fait de voir que le personnage utilise véritablement les bords de la case ou dans les jeux de perspective d'une case à l'autre, la manière dont l'histoire devient circulaire et où la troisième case, en fait, précède la première suivant la manière dont on la lit. Donc, c'est amusant. Il faut aimer l'humour absurde, il faut aimer les comment s'appelle les pages avec des histoires aberrantes. Là, par exemple, Eggman ne dort pas au pied de l'arbre, nous dit un petit récitatif. On voit Eggman qui a les yeux fermés au pied d'un arbre. En fait, il fait semblant. Par contre, l'arbre dort vraiment. Et à ce moment-là, il y a deux petits Z qui apparaissent à côté de l'arbre. Et l'arbre est même somnambule. Et du coup, l'arbre s'en va en marchant sur ses pieds, puisque c'est un arbre somnambule. Et Eggman, qui était appuyé contre l'arbre, tombe et se fait mal à la tête. Et donc, cette espèce d'étrangeté qui commence toujours par la manière la plus plate possible est quelque chose d'assez aimable, avec des gags récurrents, un oiseau, la manière dont Eggman aime l'oiseau, la manière dont l'oiseau aime Eggman, la manière dont Eggman et l'oiseau se rencontrent, la manière dont les autres oiseaux interagissent ou pas avec cet oiseau-ci précisément et Eggman. Et aussi deux gags que j'ai trouvé vraiment très drôles. Alors, vous me pardonnerez, évidemment, c'est comme tous les gens, vous savez, qui vous racontent une histoire drôle qui en fait n'est absolument pas drôle, qui essaie de vous décrire une scène au cinéma qui les a enthousiasmés, et ils la décrivent évidemment beaucoup moins bien que si jamais vous étiez devant le cinéma, devant l'écran. Cher journal, je vais écrire quelque chose qui ne regarde que moi, dit Eggman avec au-dessus de sa tête, et on le voit effectivement qui est écrit. Tu me promets, cher journal, de ne le dire à personne? Et puis non, je n'ai pas confiance, et Eggman lâche son crayon. Je vais l'écrire dans un autre journal. Et donc Eggman a disparu de la Quatrième case, il y a juste le crayon posé sur la table et une feuille blanche, puisque rien n'a été écrit. Et ouais, c'était très drôle. Et on retrouve la table qui devient une espèce de personnage secondaire et récurrent. Un livre long et ennuyeux attendait d'être lu. Il y a un livre ouvert, posé, tourné, les pages ouvertes et le dos tourné vers le ciel, sur une table. Il était posé sur une table quelconque. Et la troisième case montre exactement la deuxième case, c'est-à-dire il y a ce livre long et ennuyeux posé sur une table quelconque. Et la quatrième case, il y a une chaise qui apparaît. Soudain, une chaise sans aucun intérêt apparut, nous dit le. Donc, ouais, vraiment, on a l'impression d'être dans une espèce de. Pas de Kafka, de Dino Buzzati de la bande dessinée, avec des choses minuscules et incompréhensibles et qui néanmoins nous parlent, avec une chaise, une table, des histoires, des mots qui s'animent, des symboles de bande dessinée qui deviennent réels, des cases et des phylactères qui eux-mêmes prennent une consistance. D'une certaine manière, même cette absurdité est classique. Et si on reprend les bandes dessinées ou les proto-bandes dessinées des années 1890 à 1910, tous ces jeux sur les codes existaient. On les avait oubliés, on les avait digérés. On n'était plus dans la découverte enthousiasmée de ce qu'est un espace subdivisé en cases dans une planche où aller du haut en bas signifie progresser dans le temps. On a perdu, où les cases sont censées délimiter un espace qui est fermé et qui en même temps suppose que l'espace continu excède en fait les bords de la case. Voilà, ça n'existait plus. Et pourtant, voilà, Eggman y réussit magnifiquement. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire Eggman, de lire Terra Australis. J'espère que Christol Siek vous a évidemment donné envie de lire Mussolini et de lire Innocent 3. Et nous vous donnons rendez-vous, lui et moi, la semaine prochaine pour un autre épisode de Cases et Bulles, où nous allons peut-être commencer nos séries de l'été, c'est-à-dire déterminer un thème et laisser tomber l'actualité. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.